Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je sais que il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui sont humanistes, qui pensent à la protection des animaux, qui pensent à la protection des humains, qui voient bien les problèmes qu'on commence à devoir affronter, que ce soit écologique ou autre. Et en fait, aujourd'hui, je reçois Marion Moreau, qui est la fondatrice de la fondation Sigfox, et qui va nous expliquer comment l'Internet des objets peut résoudre ou peut aider à résoudre une partie de ces problématiques. Donc c'est une conversation hyper intéressante, en particulier si vous savez pas ce que c'est que les objets connectés, donc c'est de la technologie évidemment. Vous allez voir comment ça peut aider, c'est franchement intéressant. Donc voilà, je vous laisse avec cette conversation. Allez, volant, c'est parti. Donc bonjour à tous, je suis avec Marion Moreau. Marion, on se connaît depuis un petit moment sur French Web, tu es aujourd'hui la fondatrice de la fondation Sigfox. Et Sigfox, c'est l'Internet des objets, et on va parler de la manière dont l'Internet peut sauver des animaux en voie de disparition, mais aussi des humains. Et je trouve ça hyper intéressant de voir, parce qu'en fait, souvent, on fait pas forcément la connexion. Alors, on peut imaginer les téléphones portables, etc. L'Internet des objets, c'est quelque chose qui est un peu moins connu, je pense, par les gens. Alors d'abord, on va commencer par là. C'est quoi l'Internet des objets?
C'est quoi l'Internet des objets? L'Internet des objets, c'est... Alors si je donne une définition très personnelle, pour moi, ouais, c'est une nouvelle révolution dans l'interaction avec nos environnements. Mm-hmm. Moi, j'ai eu la chance de connaître l'Internet des années 2000, même 98, un peu avant. Et on a connu, toi aussi, bien sûr, la
connexion. Oui, je suis vieux. C'est ça que
mais
tu
non,
veux dire?
Mais non, t'es pas vieux. Le mobile, c'est plus récent. Le mobile, les applications, etc. Mais il y a une troisième vague, en fait, qui s'annonce, qui est comment, finalement, un peu à l'instar de finalement du social media, avec la puissance du social media, finalement, comment, à l'aide de capteurs qui, aujourd'hui, sont prêts à durer très, très longtemps, sont prêts à mesurer toutes sortes de choses de façon totalement automatisée, ouais, bah, finalement, on est en train de vivre une troisième révolution, qui est comment on interagit avec nos environnements de façon quasiment naturelle, parce qu'on fait parler le monde physique autour de nous.
Donc ça va être des capteurs sur quoi, par exemple? Sur des arbres, sur...
Tout ce qu'on peut mesurer du monde physique, en fait. Quand on parle de l'Internet des objets, je préférais effectivement retenir le mot Internet parce qu'on parle de la donnée. Mais les objets, c'est tous les capteurs qui peuvent mesurer des choses. Donc ça va être de la vibration, du mouvement, la température, tout ce qu'on peut faire parler aujourd'hui. Et nous, chez Sigfox, on utilise ça pour, évidemment, des enjeux extrêmement gros pour les industriels. Les comptoirs d'eau, qu'est-ce qui se passe sous le sol, que se passe-t-il effectivement, comment traquer des containers dans le monde entier. Ça, c'est des choses qui intéressent beaucoup à la fois les industriels, mais aussi ceux qui sont un peu défenseurs de business plus sustainable, je dirais.
Ouais, d'accord.
Comment est-ce que finalement on arrive à mutualiser tout ce qui est relève de l'intervention de l'homme. Et sur la fondation, ben, on utilise ça pour essayer de préserver des vies, comme tu disais.
Et alors c'est la partie qui m'intéresse le plus, évidemment. Comment vous faites pour sauver... On va commencer par les animaux avant les vies humaines, mais qu'est-ce que vous faites pour sauver des animaux en voie de disparition?
Alors sur la protection, on a commencé par la protection des rhinocéros.
Ouais.
Donc les rhinocéros, c'est 27 000 seulement encore vivants dans le monde. C'est un enjeu qui concerne aussi d'autres espèces. Tu l'as entendu, les espèces sont en danger. C'est pas...
Oui.
c'est, malheureusement, ça fait les gros titres, mais je peux te dire que pour me pencher sur le sujet maintenant depuis 2 ans et demi, et ça me touchait déjà avant, maintenant, ça, je m'en suis emparée de ce sujet-là et je constate très concrètement que oui, nos enfants, tes petits-enfants ne connaîtront jamais les rhinocéros. C'est probablement, malheureusement, ce qui va se passer. Donc, c'est catastrophique.
C'est heureux, effectivement.
Et je suis désolée d'être grave et dramatique, mais il se passe des choses qui s'accélèrent, malheureusement. Alors, les rhinocéros, pourquoi? Parce que leur corne est très convoitée par la Chine et le Vietnam, pour des vertus qu'on lui prête qui sont totalement fausses, mais ça fait partie des légendes du côté de l'Asie. C'est dans leur culture de croire à beaucoup de légendes, notamment de guérison de certaines maladies comme le cancer, etc. Et la poudre de corne, beaucoup de Chinois, beaucoup de Vietnamiens pensent effectivement que ça guérit des cancers, ça guérit d'insuffisance sexuelle, d'incapacité humaine, etc. Bon, on ne peut pas leur en vouloir, ça fait partie de leur culture, mais il n'empêche que c'est aujourd'hui un enjeu dramatique. D'abord parce que les rhinocéros se font massacrer. Il y a un an et demi, à Thoiry, c'est-à-dire à 20 km de Paris, il y a un gang qui a pénétré dans le zoo. C'est la première fois en Europe qu'on massacre à la Kalachnikov un rhinocéros vivant dans un zoo tranquille pour lui enlever sa corne. Donc c'est te dire jusqu'à quel point en fait ça va. Mais l'autre enjeu qui nous intéresse, et c'est pourquoi on essaie de courir très vite pour amener ce qu'on peut avec la technologie, c'est que des rangers aujourd'hui, tous ceux qui pratiquent leur métier, tous les acteurs de la conservation partout, sont en panique parce qu'ils croisent ils croisent la menace tous les jours en fait. Ils croisent des gens en armes, des mafias qui sont très puissantes et qui veulent aujourd'hui massacrer les rhinocéros pour leurs cornes. Alors pour te répondre plus concrètement, qu'est-ce que l'Internet des objets et a priori notre fondation amène là-dessus? C'est tout simplement de localiser beaucoup mieux qu'avant l'animal. Alors c'est énorme en termes d'impact parce que permettre de suivre un rhinocéros à distance 3 fois par jour, sans l'embêter parce que le capteur dure plusieurs années sans qu'on y touche, c'est déjà beaucoup. Les braconniers aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à savoir où sont les rhinocéros en l'occurrence. Et nous, c'est l'information ultra sécurisée qu'on amène aux rangers aujourd'hui. Ce qu'on a développé, c'est très simple. Évidemment, on a amené le réseau Sigfox, on a amené 3 antennes Sigfox qui sont grande comme une bouteille, qui couvre toute la réserve, 5000 km². On les a plantés discrètement et on a prototypé des petits capteurs grands comme un pouce que les vétérinaires ont posés dans la corne de 40 rhinocéros. Et on a créé ce qu'on appellerait, pour vous donner une idée, un Google Maps, que les rangers consultent tous les jours pour savoir où ils sont, comment ils se déplacent et s'ils prennent un risque par rapport à leur mouvement, le fait qu'ils s'approchent d'une clôture, etc. Et pour terminer là-dessus, on est capable, nous, de transformer un point GPS en une alerte SMS. Si le rhinocéros s'approche trop près d'une clôture, on le sait, il prend un risque de croiser un braconnier. Et nous, on est capable, dans le cloud, d'envoyer une notification aux rangers pour lui dire « Attention, là, il prend un risque, il faut envoyer une patrouille pour essayer de le protéger au maximum. » Voilà ce qu'on fait sur le terrain depuis 2 ans. Et on a vocation à ouvrir la solution sur Internet pour le mois de mars prochain, parce que aujourd'hui beaucoup de réserves sont intéressées par ce qu'on a développé, et je peux te dire que c'était des bouts de ficelle, des bouts de câbles.
J'imagine.
Mais ça marche très très bien, et on va rendre cette solution.
Et ça coûte cher à mettre en place.
Alors le capteur en tant que tel vaut 20 $, donc c'est vraiment rien du tout pour 3 ans de durée de vie de batterie. Ce qui coûte cher, c'est les opérations, c'est-à-dire qu'il faut survoler la réserve avec un hélico, faire appel à des vétérinaires. Ça, c'est des opérations qui sont un peu lourdes. Mais bon, il y a
une telle urgence. Du coup, c'est ce que prend la Fondation, en fait.
Non, la Fondation, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est de la R&D. Donc, on amène le réseau gratuitement, on prototype tout. Et c'est l'ONG qui supporte, elle, le coût des opérations.
D'accord. Et tu m'avais dit aussi, vous avez aussi mis des capteurs sur les grilles.
Ouais, parce qu'en fait, une fois qu'on a le réseau Sigfox, pour ceux qui ont un peu compris ou connaissent un peu, autant plugger le plus de devices, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire d'objets possibles. Ouais. Et ce qu'on s'est dit, c'est que puisque le réseau est là, là où il y a, je répète, aucun réseau.
T'es dans
le sud du Zimbabwe. Il y a pas de 3G, il y a pas de 2G, il y a même pas de Edge. Il y a rien, zéro. Mais une fois que le réseau est là, ben, il doit servir à plein d'autres choses. Mmh. Et donc, ce qu'on a envoyé, c'est une centaine d'autres objets qui sont, alors d'autres trackers, comme on dit, donc pour traquer, par exemple, mettre dans la veste des Rangers, pour qu'ils facilitent un petit peu leurs opérations et leurs flux, mais aussi des capteurs sur les clôtures, sur des barrières, qui dorment et se réveillent seulement quand il se passe quelque chose. D'où la durée de vie de la maintenance qui n'est pas nécessaire, en fait.
Et donc, voilà, si quelqu'un touche la barrière, par exemple, un braconnier.
Et bien, si quelqu'un touche la barrière, on enverra une notification qui dit « quelqu'un a touché la barrière ».
À cet endroit-là.
À cet endroit-là.
Ça, c'est chouette. Et du coup, pourquoi aujourd'hui, c'est que les rhinocéros ? Ça se développe parce que tu parlais d'assez peu d'animaux, finalement. Enfin, c'est tout relatif, mais par rapport à l'urgence. Est-ce que vous envisagez de le développer sur d'autres animaux ? Après, c'est des capteurs, on ne peut pas les mettre partout. J'imagine que sur un lion, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Mais...
Oui, alors, c'est une bonne question. En fait, on a vocation à adresser des causes globales. C'est un peu arrogant de dire ça, mais en fait, l'Internet des objets, parce que c'est moins contraignant que les autres technologies, ça fait appel à des réseaux très bas débit, c'est plus facile, en fait, de le voir à l'échelle. Et ce qu'on a prévu, nous, typiquement dans le cas des rhinocéros, c'est on va passer à la version, on va dire la V2 de ce capteur de cornes, qui est optimisé pour d'autres espèces. C'est-à-dire qu'on sait demain que l'intelligence embarquée de ce capteur est designable sur un collier, sur un bracelet, sur un tag.
D'accord.
Et donc, quand je disais qu'au mois de mars, on allait ouvrir la solution, c'est aussi pour adresser d'autres urgences sur d'autres animaux qui sont en voie de disparition ou d'extinction. Mmh. Et on est déjà contacté par des différentes ONG sur d'autres espèces comme Save the Elephants, Jane Goodall Institute, qui s'intéresse de très près à nos travaux. Comme les orang-outans qui sont